Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie pour un nouveau rendez-vous économique avec le Cercle Turgot. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet nouveau autour de la question suivante. Est-ce que le vieillissement, ce sera le grand sujet du monde demain, plutôt que, contrairement à des idées reçues, celui de la démographie et de l'excès de population, puisqu'on prévoit aux alentours de 9 milliards de terriens à l'horizon du fin de siècle. Alors, pour parler de ce sujet et avoir des éléments de réponse, je reçois Pierre Sabatier, qui est administrateur du Cercle Turgot, cofondateur du cabinet d'études économiques PrimeView et associé chez Pythagore. Pierre, bonjour.
Bonjour.
Merci et heureux de vous retrouver sur notre antenne. Alors, comme je le disais, effectivement, lorsqu'on parle de démographie, on fait immédiatement une assimilation avec le problème de la surpopulation, en tout cas vécue comme telle pour la fin du siècle. Et en réalité, vous, ce que vous dites dans une étude qui a fait grand bruit, c'est que la surpopulation n'aura pas lieu, mais par contre, le vieillissement généralisé posera des problèmes tout aussi importants. Alors, quels sont ces problèmes et qu'est-ce qui vous amène à ces conclusions ?
Merci Jean-Louis. Alors, tout d'abord, je pense que pour évoquer le sujet de la démographie est un sujet nouveau et qui ne l'est pas en même temps. C'est-à-dire que c'est un sujet de long terme, une sorte de toile de fond qui est sous-jacente à nos économies, à nos modèles de société, mais qu'on évoque rarement puisque c'est des choses qu'on subit plus qu'on arrive à maîtriser. Alors, le phénomène de la surpopulation, pour l'évoquer, je donnerai simplement un chiffre. Il faut savoir que les experts de la démographie, dans les années 60, imaginaient une population mondiale à 15 millions d'habitants à horizon 2050.
15 milliards.
15 milliards d'habitants, 15 milliards. Absolument. 15 milliards d'habitants. En réalité, aujourd'hui, les prévisions maximales voient la population mondiale atteindre 9,3 milliards d'habitants. Donc, le phénomène de surpopulation et donc, en sous-jacent, la problématique de sécurité alimentaire va se poser, bien entendu, mais dans une moindre mesure, et on ne va pas au-devant, je dirais, d'une catastrophe mondiale démographique qui serait liée à une surpopulation chronique, d'autant que la plupart des régions du monde, aujourd'hui, ont à subir plus des problèmes de renouvellement de leur population, hein, que ce soit dans nos pays industrialisés, mais contre les idées reçues également dans les pays émergents, à savoir le Brésil, la Chine. Également, voilà, les seuls pays aujourd'hui qui auront à gérer, si rien ne change, et ça c'est, on pourra l'évoquer un petit peu plus tard, à gérer une surpopulation qui posera des problèmes éventuellement géopolitiques, seront l'Afrique, malheureusement, de par sa pauvreté chronique, le Moyen-Orient et le continent indien, qu'on peut appeler
donc
comme ça.
Donc la surpopulation, vous dites, ce ne sera pas un problème général, mais un problème, on va dire, localisé, qui, effectivement, pourra entraîner des problèmes géopolitiques, de confrontation, de flux, etc.
Exactement. On peut d'ailleurs s'interroger, pour prendre un exemple, sur la problématique de la Russie. La Russie, à horizon 2050, aura 7 habitants au kilomètre carré. L'Inde, 550 habitants au kilomètre carré. Quand vous avez des frontières contiguës entre ces deux continents, on peut réellement se poser la problématique de la pérennité de l'existence même de la Russie, de sa capacité à gérer un flux migratoire qui ne pourra pas être autrement que positif et mettra la pression en fait, sur la Russie à terme. C'est très clair.
Donc ces problèmes d'évolution déséquilibrée de la population à l'échelon de la fin du siècle, en réalité, ce sont des menaces, non pas sur la façon de nourrir la planète, mais sur la façon de gérer la paix, en quelque sorte.
Absolument.
Puisque les problèmes de frontières et de porosité de ces frontières se poseront.
Absolument. La réalité, elle est sans doute ici. Il y a aussi une concomitance, L'explosion de la population d'une zone est souvent liée au degré de pauvreté de cette zone.
Ouais.
Et donc, le continent indien et l'Inde, au contraire de ce qu'on peut dire aujourd'hui, l'Inde reste un nain économique au regard de la Chine. C'est effectivement un géant démographique, mais qui reste un nain économique, alors que la Chine, lui, a émergé, et c'est un pays qui a réussi à émerger, qui est devenu à peu près un géant également économique, puisque c'est aujourd'hui la deuxième économie mondiale. Donc, Aujourd'hui, les flux migratoires à horizon 2050 poseront davantage des problématiques géopolitiques que des problématiques alimentaires, très certainement.
Très bien. Alors, l'autre aspect de votre rapport, je crois que vous avez réalisé une étude très complète sur le sujet. D'ailleurs, vous prévoyez de publier quelque chose assez rapidement sur le sujet. Donc, on vous reverra à ce moment-là, mais simplement pour donner quelques premiers éclairages. Alors, vous dites, par contre, le phénomène du vieillissement, lui, on a déjà rendez-vous avec lui.
Exactement. Alors, la réalité, la problématique démographique de demain, c'est d'abord celle du vieillissement, plus que de la surpopulation, vous l'aurez compris, notamment pour les pays industrialisés, mais aussi les pays émergents. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, on va donner quelques chiffres, parce que les chiffres parlent mieux, en réalité, qu'un discours. Il faut savoir que l'espérance de vie dans le monde devrait évoluer. Aujourd'hui, on est à peu près à 67 ans, 68 ans dans le monde. On devrait évoluer autour de 72 ans à horizon 2030 et un peu au-delà de 75 ans à horizon 2050. Et donc là, c'est pour le monde dans sa globalité. Mais des pays comme le Japon, il faut bien voir que l'espérance de vie devrait atteindre 87 ans à horizon 2050. Donc, ce qui est absolument gigantesque, hein, alors qu'aujourd'hui, on se situe autour de 82 ans. Les États-Unis, 83 ans. Et l'Europe, dans sa globalité, un petit peu au-delà de 80 ans, 81,5 ans, alors qu'aujourd'hui, on est à 75 ans. Là, on parle de l'Europe en général. Ouais. Donc, l'espérance de vie, bien entendu, augmente très, très fortement. Donc, ça pose, bien entendu, le problématique de la dépendance à terme, et on l'évoquera tout à l'heure. Un autre chiffre qui est tout à fait intéressant, c'est l'âge médian par région. L'âge médian, qu'est-ce que c'est? C'est plus de la moitié de la population aura plus de... Et alors, plus de combien, hein, au Japon, plus de la moitié de la population aura plus de 55 ans. La moitié, hein, plus de 55 ans à horizon 2050 contre 44 ans aujourd'hui. En Europe, plus de la moitié de la population aura 47 ans contre 41 ans aujourd'hui. Et aux États-Unis, plus de 42 ans. Alors, ce qui est marquant, simplement, sur l'âge médian, c'est regarder l'âge médian des Chinois. Hein, puisqu'on parle souvent et on considère souvent que le vieillissement est un problème de pays riches. Non, mais c'est un problème de pays riches et de pays émergents, puisque la Chine, de l'âge médian chinois, devrait être supérieur à l'âge médian américain à horizon 2030 puis 2050, hein, puisque dès l'année 2030, l'âge médian en Chine devrait atteindre 41 ans contre 39 ans aux États-Unis. Donc ça, c'est bien quelque chose qu'il faut garder en tête. Attention, la problématique du vieillissement n'est pas uniquement une problématique de pays riches, mais aussi une problématique de pays émergent.
Donc, s'agissant de la Chine, ça me rappelle un de vos slogans de l'époque qui consistait à dire « la Chine sera vieille avant d'être riche
». Tout à fait. Malheureusement pour ce, là aussi, ce pays continent, le rattrapage économique sera limité par le poids petit à petit également étouffant des seniors qui sont bien entendu des non-actifs, donc des non-créateurs de richesses dans une société. Donc, la Chine va commencer à connaître ce processus de vieillissement aujourd'hui, savoir dans les quelques années qui viennent.
Voilà. Alors, dans ce contexte, donc, les modèles de société devront être repensés, c'est ce que je lis en filigrane de votre démonstration, et pas simplement avec de simples ajustements. Alors, quelles sont les mesures lourdes et de long terme qu'il faudra mettre en place?
Alors, bien évidemment, aujourd'hui, avec une telle modification de la structure de la pyramide des âges, on ne pourra pas simplement mettre des pansements sur les mots de modèles de société. Et donc, il va vraiment falloir se reposer la question des objectifs à atteindre et comment fait-on pour atteindre ces objectifs avec une structure de la population qui est terriblement différente du moment durant lequel on a construit nos modèles de société. Alors là, je reviendrai très rapidement sur un phénomène. Nos modèles de société ont tous été créés dans les pays industrialisés après-guerre. Après-guerre, c'est quoi? C'est essentiellement des jeunes avec le phénomène de baby-boom qui est bien connu chez nous, voilà, et très peu de vieux, très peu de seniors, en fait, de personnes qui sont inactives au-delà de 65 ans. Là, je vais simplement donner un chiffre pour que nos auditeurs aient conscience du phénomène. Au Japon, le poids des plus de 65 ans atteindra 38% à horizon 2050, contre 22% aujourd'hui. En Europe...
Donc presque doublé.
Presque doublé, tout à fait. Et en Europe, on sera à 28% contre 17% aujourd'hui. Donc le phénomène est global partout. Donc là, on ne parle pas de petites évolutions. On parle d'évolutions, c'est-à-dire que plus du tiers de la population aura plus de 65 ans. Avec tout ce que ça sous-tend en termes de dépendance et de problématique de santé publique, puisque... Il faut savoir, tout à l'heure j'ai évoqué l'espérance de vie qui augmente, mais il faut savoir que l'espérance de vie sans handicap n'augmente pas. Et ça, c'est terrible. À savoir qu'à partir de 70 ans, vous commencez à avoir des problèmes de santé. Donc les prises en charge commencent à être là. Donc plus l'espérance de vie augmente, mais l'espérance de vie sans handicap, donc la prise en charge est plus efficace qu'auparavant puisque la durée de vie augmente, ouais, mais l'espérance de vie sans handicap n'augmente pas. Donc c'est terrible en termes de, je dirais, de finances publiques, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le coût de la dépendance ne va pas simplement à système de prise en charge constant rester le même, il va bien augmenter puisque la proportion...
Ouais. Plus l'espérance de vie augmente, on va dire plus la prise en charge progresse.
Est importante puisque malheureusement vous avez toujours mal au dos au même moment.
D'accord, d'accord.
Et donc ça va poser des problèmes qui sont absolument primordiaux. D'autant que, et alors par rapport à ce souci-là, hein, c'est des sujets d'actualité, lorsqu'on évoque les réformes de la retraite ou de la santé, il faut voir que le vrai enjeu du vieillissement, c'est d'abord un problème de prise en charge de la santé plus que de retraite. Hein, donc là encore quelques chiffres. Hein. En France, normalement, l'évolution de la pyramide des âges devrait coûter en points de croissance. Vous savez, aujourd'hui, la croissance française tourne autour de 1,5-2% pour cette année.
On en vient aux conséquences économiques.
Absolument. Donc, devrait coûter à peu près un point de croissance par an, hein, à horizon 2030. C'est-à-dire, chaque année, un point de croissance sera grévé par ces problématiques de prise en charge de la retraite, simplement parce que la proportion des gens qui vont toucher des retraites sera plus importante qu'auparavant. Et en même temps, bien entendu, malheureusement, la proportion de gens actifs, la cohorte des actifs sera moins forte. Donc là, vous allez avoir un problème. Mais l'impact du vieillissement sur un système de prise en charge constant en termes de santé sera bien, bien plus important. Hein, en France, on atteindrait autour de 3,5% de taux de croissance grévé par l'augmentation des frais de dépendance. Donc vous faites le total, hein, c'est facile, ça veut dire 4% par an. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas continuer avec des systèmes comme ils existent aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a 2% de croissance en France, c'est une bonne année. Et là, je vous évoque des chiffres qui tournent autour de 4% de croissance ponctionnée uniquement par le phénomène du vieillissement. Ça veut dire qu'on se retrouverait à moins 2. Donc, en situation de récession. Et encore, si vous prenez la problématique des États-Unis, elle sera encore plus importante. Le vieillissement devrait, aux États-Unis, consommer jusqu'à 5,5% de PIB par an. Donc, c'est colossal. Et on ne peut pas simplement imaginer des réformes de retraite. Si on continue comme on l'a commencé jusqu'à maintenant, vous pouvez être à peu près sûr que tous les 3, 4 ou 5 ans, on fera des réformes de retraite et on refera des réformes de prise en charge.
Donc, l'impact sur la croissance future du phénomène de vieillissement est absolument énorme.
Colossal.
Colossal. Et donc, d'où l'intérêt, effectivement, de se préoccuper d'une croissance forte, car sans croissance forte, les déséquilibres vont s'installer au-delà de ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors, au-delà donc des aspects sociaux que vous venez de décrire, un monde donc structurellement plus âgé, plus vieux, des conséquences sur, on va dire, la répartition de la richesse au profit de ces générations. Et alors, dans votre étude, ce qui était très, très intéressant, et on terminera peut-être par ce point, c'est que ceci impacte aussi très largement sur la planète finance. Autrement dit, sur le prix des actifs, sur la valeur des patrimoines, ce phénomène de vieillissement structurel a un impact très fort, notamment sur les préférences et les phénomènes comportementaux.
Absolument, et c'est une des choses les plus intéressantes qui ressort de notre étude. C'est que vous soyez japonais, français, allemand ou américain, vos comportements, que ce soit en termes de consommation ou de prise de risque dans votre vie, sont à peu près les mêmes en fonction de votre âge. Donc c'est simple, hein, quand vous êtes jeune, vous êtes un preneur de risque par définition. Et jusqu'à 40 ans, vous continuez de prendre du risque. À partir de 40-45 ans, vous atteignez en fait une espèce de pic au niveau de vos revenus. Donc vous êtes encore un preneur de risque, mais petit à petit, vous devenez plus gestionnaire qu'inventeur et créateur. Donc là, vous comprenez bien entendu que lorsqu'on a une position qui est très jeune, où la proportion des 20 à 40 ans ou 20 à 45 ans est très importante, on a structurellement un substrat beaucoup plus favorable pour tous les phénomènes d'innovation. Et d'ailleurs, simplement, je fais une petite digression, il faut savoir que, si vous vous souvenez bien, à la fin des années 80, le modèle de référence économique était le modèle japonais.
Et
le modèle obsolète à l'époque, hein, à la fin des années 80, était le modèle américain. En réalité, ce n'est la résultante que d'un phénomène démographique, et ça, il faut bien le noter. Pourquoi ? Parce que le Japon a connu un phénomène de baby-boom bien plus précoce 20 ans auparavant que les États-Unis ou encore que l'Europe, qui a permis quoi ? Une population extrêmement jeune avec une augmentation très forte de la cohorte des très très jeunes personnes entre 20 et 40 ans, de créer un substrat très fort d'innovation et a construit les grandes entreprises innovantes de la fin des années 80 japonaises qui ont fait un malheur, je dirais, sur le marché mondial. Malheureusement pour le Japon, la fin de l'hégémonie, je dirais, de cette cohorte de population-là. Ces gens-là ont vieilli. Derrière, les taux de fécondité ont beaucoup baissé au Japon et ont entraîné quoi ? Une perte de cette capacité à créer et à innover pour les Japonais qui fait que, depuis, on est toujours en déflation et on a du mal à créer, à avoir des taux de croissance qui sont très élevés.
Une société âgée, elle n'entreprend pas,
absolument.
Elle ne consomme pas, voilà. Et donc, elle n'a pas d'avenir.
Et il est absolument nécessaire de prendre en considération pour élaborer des politiques publiques, c'est-à-dire... Effectivement, l'investissement dans la recherche et le développement est absolument nécessaire, est une condition nécessaire à la création de richesses, mais pas suffisante. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, les champions du monde de l'investissement dans la recherche et le développement sont les Japonais. Malheureusement, leur structure démographique fait que on n'arrive toujours pas à créer de la richesse, ni de l'innovation en tant que telle, parce que voilà, la population a vieilli et la cohorte de jeunes est relativement peu suffisante pour, en dépit de cet investissement en fait, dans la recherche et le développement, pour créer de la richesse. Voilà. Donc, pour revenir en fait sur les impacts financiers, rapidement, hein, il faut savoir que le top du top pour les marchés actions, c'est les personnes âgées entre 40 et 55 ans. Pourquoi ? Parce que vous gagnez beaucoup d'argent, vous épargnez donc, vous avez de l'argent à disposition et vous êtes toujours des preneurs de risques. Alors, un trait d'humour, je dirais, vous pensez toujours qu'il est possible de faire fortune. Voilà, et dans ces cas-là, vous allez prendre du risque et acheter des actions. Le grand marché haussier qu'on a connu aux États-Unis des années 85 jusqu'à 2008 est avant tout la conséquence d'un phénomène démographique. La cohorte des 45-55 ans aux États-Unis n'a cessé d'augmenter durant toute cette période-là. Donc, vous aviez un facteur démographique extrêmement favorable aux actifs risqués comme les marchés actions. Voilà. Là, la vraie différence, c'est que justement, cette cohorte des 45-55 ans commence à vieillir. Voilà, et donc atteint des âges où la prise de risque est moins systématique. 55 ans, la retraite se rapproche. Vous avez conscience de, je dirais, l'arrêt de vos revenus issus de votre travail. Et donc, à partir de là, vous allez plutôt vous orienter vers des actifs qui sont moins risqués, à savoir les obligations. C'est exactement ce qu'on a constaté au Japon durant les années 90. Les Japonais ayant vieilli ont transféré leurs ressources et leur épargne vers quoi ? Vers les actions au profit des obligations. Conséquence, le Nikkei, qui est l'indice de référence japonais, est toujours 70% en dessous de ses plus hauts des années 90-91, alors que les obligations, c'est-à-dire que le prix auquel les Japonais sont prêts à prêter de l'argent à l'État, sont toujours à 1,5%, ce qui est absolument remarquable. Il faut savoir que l'État japonais est endetté à hauteur de 220% du PIB. Alors, on parle de problème de dette publique en Grèce, on atteint 150% du PIB. Chez nous, on est à peu près à 85% du PIB. Les Japonais sont à 220% d'endettement public. Donc, vous comprenez l'ampleur, je dirais, de la bulle de dette publique. Et pourtant, ils financent toujours cette dette à 1,5%, c'est-à-dire à des taux qui sont plus de deux fois inférieurs aux nôtres. Et je ne le compare pas encore au phénomène de la Grèce. Pourquoi ? Tout bêtement parce que les Japonais, à leur âge, ne veulent plus prendre de risques. Donc, ils préfèrent prêter à l'État à 1,5%, même si, effectivement, on est dans un phénomène de dette publique, qu'aller prendre du risque sur des actions, puisque je rappelle, les actions, ça peut monter, mais aussi ça peut baisser. Et aujourd'hui, les cours des actions japonaises sont toujours 70% en dessous de leur plus haut des années 90. Et les Japonais sont plus prêts à prendre ce risque-là.
Donc, les gestionnaires de fonds et les petits porteurs d'actions doivent commencer à se faire un peu de soucis sur les actifs en actions.
Alors, tous les aspects démographiques sont à considérer en toile de fond. Bien entendu, hein, au jour le jour, ces aspects-là ne sont pas visibles. Mais effectivement, dans un horizon de 5, 10, 15 ans, il faut bien avoir conscience que l'environnement sera bien moins favorable au marché actions. Donc, ce qui veut dire simplement qu'on ne sera pas sur des marchés directionnels.
D'accord.
En même temps, être gérant de portefeuille dans les années 90, ce n'était pas très difficile, j'ai envie de vous dire, puisqu'il suffisait d'être investi pour gagner. Donc ça, c'est terminé, définitivement terminé. Maintenant, pour gagner sur les marchés actions, car il sera toujours possible de gagner. Il faudra simplement être tactique et arriver à déterminer les moments où on a des opportunités, les moments où il faudra plus se protéger.
Bien, alors c'était les convictions de Pierre Sabatier sur ce sujet délicat du vieillissement, grand sujet du monde de demain, avec une certitude, c'est que, et c'est votre message, que c'est aujourd'hui, même si cet impact est pour le monde de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à prendre des dispositions dans le monde d'aujourd'hui pour corriger, à défaut d'effacer, les conséquences qui se feront jour au plan politique, au plan social, et au plan économique et au plan financier,
absolument,
ce qui est une grande découverte. Bien entendu, ceci en sous-jacent, c'est un message pour les hommes politiques pour avoir le courage dès aujourd'hui de dire à leur opinion publique que le vrai sujet de la démographie qui structure d'ores et déjà les aspects géopolitiques du monde, c'est d'abord le vieillissement avant même celui de la surpopulation. Voilà votre message. En tout cas, merci. Je rappelle merci. Que c'était les convictions de Pierre Sabatier, administrateur du Cercle Turgot et cofondateur du cabinet PrimeView. Merci à vous, Pierre.
Merci.